bonjour à chacune, à chacun. Nous allons reprendre notre texte d'Éphésiens au chapitre 3. Je me recule. Alors, c'est peut-être un texte qui semble compliqué à première vue, qui est compliqué. Parfois, on le lit, on se dit, j'ai rien compris. Alors, déjà, pour mieux comprendre, il faudrait peut-être pas faire la coupure entre le chapitre 2 et le chapitre 3, parce qu'en fait, c'est un ensemble qui va du chapitre 2, verset 11, jusqu'au chapitre 3, verset 12. Et on voit là cette question de la fracture de l'humanité. Alors ici, une fracture qui est en particulier illustrée par les Juifs d'un côté et les païens de l'autre. Une fracture de l'humanité entre elles et une fracture de l'humanité envers Dieu. L'humanité divisée. Quand on prend un vase et qu'on le casse, il y a des morceaux de partout. C'est une fracture. Et l'être humain, par son péché contre Dieu, s'est mis en fracture contre Dieu. Et à partir du moment où il s'est coupé de Dieu, fracturé avec Dieu, alors forcément, il a commencé à se fracturer les uns envers les autres. Quelles sont les fractures dans notre humanité? La fracture des langues. Ah, on ne parle pas les mêmes langues. Et des fois, ça m'énerve quand j'entends parler telle langue étrangère. Ça m'énerve. J'aime que les gens qui parlent français. Les patriotismes. Ah oui, voilà une fracture qui divise l'humanité. Chacun pour son pays, mais chacun pour sa région. On est au sud, on aime le soleil, là-bas, dans le nord, c'est des incultes. D'ailleurs, leur accent, on dirait des débiles mentaux. J'avais jamais entendu parler quelqu'un de l'île là-bas parler. Oh là là, vous dites, mais, oh, sur le coup, vous dites, il a un problème. Non, c'est un cliché. Mais vous voyez nos fractures, on est des chauvins, on est fracturés. Les cultures ethniques. Ah, voilà des fractures. Les Juifs, ils ont des habitudes. Les Centrafricains, ils en ont d'autres. Les Malgaches, ils en ont d'autres. Moi, j'ai les miennes, en plus, de mon ethnie familiale. Hein? On est fracturés par nos cultures. Et c'est source de problèmes. D'autres fractures, les hommes et les femmes. Oui, l'humanité est fracturée et souvent le rapport homme-femme est problématique, conflictuel dans de nombreuses parties du monde. Les droits de la femme, etc., hein, c'est pas pour rien qu'il a fallu mettre des lois en place. Et c'est pas fini. Les générations, est-ce que c'est pas des fractures? Les jeunes et les vieux. Les jeunes qui comprennent pas les vieux qui comprennent pas les jeunes. Le quotient intellectuel, est-ce que c'est pas une fracture qui divise les gens entre les intelligents, les sages, ceux qui savent, puis les imbéciles, hein? Ceux qui savent moins, ceux qui savent pas trop, ceux qui sont pas capables. Vous savez, vous entrez dans une salle de classe et c'est vite vu les fractures. Entre ceux qui se montrent du doigt, t'as vu comme il est stupide lui? Ouais, t'as vu lui, c'est l'intello. Alors, parce qu'il est trop intelligent, on n'en veut pas, on le met de côté. Hein? Des fractures dans tous les sens. Nos préférences politiques. Sujet à ne pas avancer si on ne veut pas se fâcher. Voilà des causes de fractures. Et qui ont fracturé les nations entières. Avec des idéologies. Les corporations de métiers, est-ce que c'est pas des fractures? Ça va encore, ça va mieux maintenant, mais dans les écoles, par exemple, dans les écoles maternelles, il y avait des enseignants, puis il y avait des aides maternelles. Vous savez, des dames qui aident dans la salle. Alors, comme l'ancienne ancienne directrice de mon école disait, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Hein? Les enseignants, d'un côté, et là-bas, de l'autre, là, il est plus bas. Il est hiérarchie. Puis il y a les fonctionnaires. Alors, là, il y a une fracture entre les fonctionnaires et puis les autres. Les fonctionnaires, ils sont privilégiés, ils sont... Hein? On les est fracturés comme ça. Hein? Surtout quand il faut manifester. Quand il s'agit de toucher à nos intérêts. Les retraites, les privilèges. On se fracture. Il y a le niveau culturel qui fracture. Il y a le niveau économique. Est-ce qu'il n'y a pas des fractures entre riches et pauvres? Est-ce qu'on se fréquente forcément entre personnes qui ont un peu d'argent et personnes qui n'en ont pas? Ouh, ça mérite des distances. Déjà, ça mérite des distances dans les destinations de vacances, tout simplement. Hein, on ne part pas aux mêmes endroits en vacances. On n'habite pas dans les mêmes quartiers de la ville. On ne fait pas les mêmes activités. On ne se rencontre pas. L'argent. C'est aussi la religion. Ce sont aussi les antécédents historiques négatifs. Pensez à Roméo et Juliette, hein, qu'est-ce qui fracture de famille? Ils s'en veulent pour des vieilles histoires, des vieilles rancunes, et toujours aujourd'hui, on est en fracture. Et ça, c'est une illustration de réalité. Vous pouvez voir deux fois qu'ils divisent l'esthétique corporelle. Ah, il y a les beaux, il y a les moches. Alors ça, chez les ados, c'est très fort. Hein? La manière s'habiller, ceux qui sont à la mode, ceux qui ne le sont pas. Ça fait vite des séparations, des mises à l'écart, des rejets. Si on est un peu gros, difficile de trouver sa place. Il y a d'autres fractures comme le handicap physique. Demandez à Bénédicte si son parcours en tant que malentendante était facile. Non. Parce que le fait de ne pas entendre est une barrière et il y a des gens qui ne veulent pas faire l'effort de la surmonter. Je crois même que c'est tombé sur des professeurs particulièrement odieux.
Oui, ça n'est que compliqué.
Hein? Ah oui, des barrières. Sans parler de nos caractères. Oh, les caractères! Ça, ça fait des fractures. Un monde divisé. Lui, je ne le supporte pas, il m'énerve. Lui, avec sa culture machin, lui, oh là là! Hier soir, nous avons mangé avec nos voisins. Nous avons ça d'être en commun, nous sommes voisins. Mais, à bien y réfléchir, que de barrières. D'abord, ils sont marocains. Nous sommes français. Une première barrière culturelle. Ils sont musulmans, nous ne le sommes pas. Hier, elle est venue avec son voile, alors qu'elle ne portait pas pendant 10 ans. Une autre barrière. De temps en temps, entre eux, ils parlaient arabe, même à table. Arrivé. Ah, c'est une autre barrière de la langue. Et puis, nous n'avons pas le même âge. Ils sont plus âgés que nous. Une petite barrière générationnelle. Et puis, si nous avons le même niveau, je dirais, économique, hein, nos maisons sont contiguës, mais nous n'avons pas le même niveau, peut-être, d'éducation intellectuelle. Il est ouvrier, soudeur, et elle ne sait ni lire ni écrire. Donc, vous voyez, autant de choses qu'on pourrait dire, comment est-ce qu'on va manger ensemble, passeport depuis les grilles à malade, avec tout ça, avec la langue, avec nos différences, mais être quand même unis. Et ça, c'est la grande question. Notre texte d'Éphésiens parle de la fracture de l'humanité. D'abord, une fracture contre Dieu, qui a généré des fractures entre les êtres humains. Et dans notre texte, si toutes les divisions que j'ai mentionnées sont imputables aux hommes, il y a une division spéciale qui semblait, elle, provenir d'un choix injuste de la part de Dieu, c'est la séparation entre les juifs et les païens. Parce que bon, riche, pauvre, moche, beau, tout ça, c'est nous, c'est les humains. Bon, vous savez, pourquoi il y a quand même des gens qui ont la révélation de Dieu, les juifs, Dieu s'est révélé à eux, et puis le reste des païens, non? On a déjà parlé un petit peu. Et cette fracture, eh bien, notre texte nous présente justement ce mystère. Chapitre 3, verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par les anges. Si on voulait retenir un titre pour ce chapitre et ce message, c'est la réunification. La réunification. Ça nous fait penser d'ailleurs à l'Allemagne, n'est-ce pas, qui était séparée Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest. Vous savez que même des années après, c'est compliqué dans les mentalités de faire la vraie réunification des mentalités. Et c'est facile. Pourtant, ils ont la même langue, la même histoire, sauf une partie de leur histoire qui les a marqués. Alors imaginez les humains fracturés en des milliers de nationalités, d'ethnies, de cultures, de niveaux sociaux, d'intelligence, de beauté, de... Oh là 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 là, c'est de caractère. Comment est-ce qu'on va pouvoir réunifier? Oui, on voit des fractures. On voit des fractures dans les familles, on voit des fractures par la guerre dans nos pays, on voit des fractures de partout. Et en même temps, il y a une aspiration de l'être humain à la réunification. Il y a une aspiration au recollement de ces morceaux brisés. Il y a une aspiration à la pacification des membres en conflit. Hein, on veut la paix, on veut être unis. Mais en même temps, il y a une ambiguïté de l'être humain. Parce qu'à la fois, il est désireux d'unité, et à la fois, il est initiateur de division. N'est-ce pas? Ah oui. On va peut-être être le premier à mettre de côté celui-là qui est handicapé, celui-là qui est un peu stupide, celui-là qui est moche, celui-là qui est gros, je vais me moquer, celui-là qui a moins d'argent, celui-là qui... Ah oui. En même temps, on veut l'unité et en même temps, on est les initiateurs de la division. Cette ambiguïté, c'est l'ambiguïté du péché. En même temps, on est victime du péché des autres, et donc on est victime des divisions. Hein, quand on est le gros, il y a l'écart, on souffre. On souffre du péché des autres. Et en même temps, alors qu'on déplore le rejet, on justifie quand nous on rejette les autres. En même temps, on a envie d'être unis, en même temps, nous sommes les premiers qui disent non. C'est le péché. On pleure d'être victime du péché des autres, mais on est les premiers à abîmer les autres par notre péché. Alors, quelle solution à tout ça? Comment réunir les hommes? Comment faire une réunification? Mais voilà, les Jeux Olympiques. Et oui, on sort des Jeux Olympiques. Quel est l'esprit des Jeux Olympiques? Est-ce que c'est de gagner ou de participer? C'est participer. C'est absolument pas de gagner dans l'esprit des Jeux Olympiques. N'est-ce pas? C'est ce qui différencie de toutes les autres compétitions, normalement, l'esprit olympique se différencie de tout autre championnat du monde, etc. C'est là où normalement la courtoisie, le fair play, le respect de l'autre. Il y a des valeurs olympiques qui sont officielles. Et c'est un moyen de réunir. On pense à l'intégration des athlètes noirs dans les équipes des Jeux Olympiques. 1936, Jeux Olympiques de Berlin, Jesse Owens qui gagne 4 médailles d'or. Ça fait drôle à Hitler. Mais pas qu'à Hitler, parce que la veuve de Jesse Owens a témoigné à Berlin que les militaires nazis avaient mieux traité que les responsables de sa propre équipe olympique américaine. Parce que nous étions encore à une époque en Amérique où les Noirs et les Blancs étaient séparés. N'est-ce pas? Alors avoir un Noir qui gagnait, c'était trop la honte. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu dans les Jeux Olympiques? On a vu un judoka égyptien qui a refusé de serrer la main et de saluer son vainqueur parce qu'il était israélien. Alors son comité égyptien l'a éliminé du championnat. Parce que c'était contraire aux valeurs olympiques. Aujourd'hui, on voit dans les Jeux Olympiques la question des femmes. Hein, les femmes qui sont iraniennes, par exemple, qui sont interdites d'assister à des matchs de volley quand deux équipes sont des équipes masculines. Elles n'ont pas le droit de rentrer. Alors il y a une revendication, etc., à la place de la femme. Et dans les Jeux Olympiques, nous avons vu notre sauteur à la perche, Lavinelli, qui s'était sifflé, hué, pour le décourager par le public brésilien. Et les médias ont dit, les Brésiliens n'ont absolument rien compris de l'esprit olympique. Alors c'est intéressant, les Jeux Olympiques. Mais est-ce que vous croyez que les Jeux Olympiques vont réussir la réunification de toutes les fractions que nous avons sur cette terre? C'est un bel idéal, mais a-t-il la force, a-t-il la capacité de générer un souffle qui va faire que des gens désunis, fracturés, ennemis, vont pouvoir vivre ensemble? Non. Et on peut chercher d'autres moyens, des idéologies, etc. Et Paul, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, vous savez, il y a un projet dans le cœur de Dieu de toute éternité, ce mystère caché. Ce mystère caché, c'est de réunir en un ce qui est fracturé. Ce mystère caché, c'est de réunir déjà l'humanité avec Dieu lui-même, avoir accès au Père, verset 12, mais aussi les gens entre eux. Et le texte nous dit qu'il y a un moyen pour faire ça. Le moyen, c'est l'Église. Le mystère, c'est ce qu'il y a au cœur de Dieu. Le moyen de le faire, ce n'est pas les Jeux Olympiques, c'est l'Église. Alors, comment nous présenter l'Église? Revenez en Éphésiens chapitre 1, verset 23, le tout dernier verset du chapitre. 22. Il a tout mis sous ses pieds, c'est-à-dire sous les pieds de Jésus-Christ, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Comment est présentée l'Église? Premièrement comme le corps de Christ, et deuxièmement comme une plénitude. Il dit l'Église, c'est la plénitude de Dieu, de celui qui va remplir tout en tout. Une deuxième expression, chapitre 3, verset 10, dit c'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église va être présentée comme le moyen de faire connaître le cœur de Dieu, sa sagesse, son projet, son mystère. Faire connaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre concrètement en œuvre, Mais ça veut dire aussi publier de ce qui est au cœur de Dieu de toute éternité. Dieu est un, et la division entre les hommes est absolument contraire à la nature de Dieu. Et Dieu veut réunir ce qui est brisé. Il veut recoller ce qui est cassé. Faire connaître, c'est expliquer comment Dieu va s'y prendre pour recoller ces morceaux. La suite nous le dit, le verset 11. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ. Oui, le plan de Dieu pour recoller les morceaux d'une humanité fracturée, c'est Jésus. C'est la croix. Nous le voyons au chapitre 2, verset 16. Réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix. Jésus-Christ est la porte d'entrée. Il est le moyen que Dieu a prévu de toute éternité, connaissant que le péché rentrerait dans le monde, connaissant qu'il y aurait cette fracture. Dieu sait tout d'avance. Alors il avait aussi prévu d'avance le moyen de recoller. Et le moyen de recoller, c'est Jésus-Christ, et le moyen de le publier, de le faire connaître. C'est l'Église. C'est l'Église qui va témoigner Jésus-Christ, et c'est l'Église qui, dans son vécu, nous allons le voir, va témoigner de comment Dieu peut réunir des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Comment dans une église il peut y avoir des pauvres, des riches, des blancs, des noirs, des très intelligents, des moins intelligents. Il y a de tout. Comment est-ce qu'on peut recoller l'église est appelée à en être le témoin. Le témoin vivant sur cette terre, comment des gens qui normalement sont comme ça, sont fracturés, eh bien, vont être assis sur les mêmes chaises, sur les mêmes bancs, en train de louer le même Seigneur. L'Église est un projet bien différent que le projet que Dieu avait avec Israël. L'Église n'est pas une entité géopolitique. Contrairement à Israël, qui avait un territoire, une armée, un roi, des lois, des lois théocratiques, mais des lois. Et c'est une entité, Israël, par nature, parce qu'elle était géopolitique, excluait les autres nations. Mais l'Église, elle est une famille spirituelle, elle est un corps spirituel, elle est un peuple spirituel et spirituel seulement. Que d'erreur lorsqu'on a cherché à faire de l'Église une entité géopolitique qui prenne le contrôle sur des nations, etc., etc. Ça, c'est un drame, c'est pas le but de l'Église, surtout pas. Et c'est pour ça que l'Église a reçu comme ordre, les chrétiens ont reçu comme ordre de se soumettre aux autorités établies. On n'aurait jamais imaginé un tel ordre pour Israël. Israël, c'est un pays, un royaume avec des lois qui viennent de Dieu. C'est pas votre projet. L'Église, elle est appelée à se soumettre aux autorités. Parce que un autre projet, c'est une famille, un corps, une réunification spirituelle. L'Église est un projet divin, marqué donc par l'union des désunions. Et ça, j'aimerais vraiment que ce matin, on comprenne que Dieu, par l'Église, veut vraiment montrer comment ce qui est fracturé va pouvoir s'unir, se réunir, se supporter, s'aimer. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, on va voir maintenant en quoi l'Église est le moyen d'unification. On va dire pourquoi les Jeux Olympiques, c'est pas mieux. Pourquoi il n'y aurait pas d'autres choses qui sont mieux? Pourquoi est-ce que l'Église, c'est unique, c'est irremplaçable? Et il n'y a pas mieux. D'abord parce qu'il y a une même porte d'entrée décisive. La porte d'entrée, c'est la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la repentance et la foi personnelle en Jésus-Christ. Et cette porte d'entrée est la même pour tous. Regardez, un chapitre après, Éphésiens 4, verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Une porte d'entrée qui est la même pour tous, et qui est la repentance et la foi en Jésus-Christ. Alors on va dire, oh ben oui, alors finalement c'est pareil que toutes les religions, le point commun c'est d'avoir la même religion. Vous voyez, ça va beaucoup plus loin. Parce que cette porte d'entrée, vous l'avez entendu, c'est quoi? C'est la repentance. C'est ça qui change tout. Parce qu'on dit qu'il y a des fractures dans le monde. Il y a des gens qui ont du mal à s'entendre. Il y a lui, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui. Sauf que la porte d'entrée de la croix, au lieu de pointer le doigt vers les autres, elle pointe le doigt vers qui? Et ça, c'est unique. Parce que on ne peut pas rentrer dans l'Église spirituelle. On ne peut pas faire du partie du corps de Christ si on n'a pas reconnu ses péchés. Si on n'a pas pleuré et crié contre soi-même, plus fort que contre les autres. Vous savez ce qui fait de quelqu'un un chrétien, c'est qu'il est terrassé en disant, mais attends, je suis pécheur. Je suis un problème. Ce n'est pas que moi, d'accord. Mais je suis un élément capital dans les problèmes qu'il a. Vous savez, souvent on a une tendance, moi, à se voir comme un coupable un peu secondaire, hein. Coupable, mais pas trop. Je suis pas parfait, mais enfin, le vrai problème, c'est pas moi, c'est les autres. On se dit, bon, moi, je suis en arrière-plan. Eh bien, l'Évangile, c'est tout le contraire. Qu'est-ce que fait l'Évangile? Il nous met au premier plan. En disant, attends, tu veux venir à Jésus-Christ, pourquoi? Et pour que les autres, ils m'embêtent plus. Ah, ça tout faux, tu peux partir. Tu veux venir à Jésus-Christ, c'est parce que c'est toi qui es un pécheur, c'est toi qui es perdu, c'est toi qui es coupable, c'est toi qui seras jugé. Tu vas répondre devant Dieu de ta vie pourrie. Comment il me parle? Et oui, l'Évangile nous parle comme ça. Il est pécheur, il est là. Arrête de regarder autour et regarde toi. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc de quand on vient à Jésus-Christ, on vient parce qu'on est convaincu de péché. Oh, il y en a peut-être que nous, peut-être, on n'en sait rien. Ne nous comparons pas. Je suis convaincu que j'abîme les gens. Et ça change tout dans les fractures. Parce que dans ce qui nous oppose, dans cette difficulté de se supporter entre Français, arabe, gitan, entre pauvres et riches, entre moches et beaux, entre intelligents et tout. Le problème, c'est le péché. Mais l'Évangile nous permet enfin de dire, c'est pas le péché des autres. C'est le mien. Et le Seigneur nous met sur le devant de la scène. Et voilà pourquoi l'Église est le moyen unique pour la réunification, parce qu'on prend enfin le problème du bon côté, en commençant chacun par soi-même. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui est prêt à se remettre en question. C'est quelqu'un qui est prêt à entendre des reproches. C'est quelqu'un qui est prêt a laissé Dieu lui montrer son péché, lui montrer comment il exclut les autres, lui montrer comment il manque d'amour, lui montrer comment il est égoïste, comment il juge, comment il est à l'écart. Il dit, Seigneur, t'as raison. Je m'en parle. Je confesse mon péché. On ne se voit plus comme une victime, mais on se voit comme un acteur de premier plan dans les problèmes. Dans les problèmes familiaux, les fractures familiales. Hein. Non, mais c'est ma femme, disait l'autre. L'autre, c'est Adam. Hein. Oui, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Vous voyez ? Dès le début, en Éden, c'est l'autre. Je ne suis pas blanc, mais l'autre est carrément noir. Hein. L'Église. L'Église, le corps de Christ. Il est composé de personnes authentiquement sauvées, qui sont passées par une authentique repentance, et qui sont convaincues en eux-mêmes de ne pas être des gens bien, mais d'être des pécheurs, à qui Dieu pardonne, et qu'il va restaurer. Et on va commencer par soi-même. Voilà pourquoi c'est difficile. Voilà pourquoi ça change tout. Des Jeux Olympiques, ou de tout ce qu'on peut imaginer comme moyen pour réunifier l'humanité fracturée. Et en plus, si on va dans le sens de l'Évangile, on est même prêt à changer de pensée, à changer de sentiment, à changer d'attitude, à changer d'action, même si l'autre en face ne le fait pas. Et oui, c'est ça. L'Église. Alors, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour réunir, réunifier ce qui est divisé. D'autant plus que s'il y a une même porte d'entrée, la croix, il y a une même puissance qui agit en nous. C'est le Saint-Esprit. Prenez 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 13. Il dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Vous voyez ce un seul corps? Un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. On voit bien la condition sociale qui est évoquée ici. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui œuvre en chacun de nous et qui nous pousse à la repentance. Parce que pour régler les fractures, il faut passer par la repentance. Le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit nous pousse à la repentance, nous pousse au progrès spirituel, nous pousse à la sanctification. Et c'est le même Saint-Esprit qui confère ses fruits, la bienveillance, la patience, la patience, la bonté, on n'en a pas besoin pour gommer les fractures. Qui c'est qui produit ça? Le même Saint-Esprit dont nous sommes tous abreuvés. Amen. Alors, nous avons un réel partenaire, le Saint-Esprit, qui combat à nos côtés, qui combat en nous, et en chacun de nous. On n'est pas laissé à nos seules forces à nous. Et voilà pourquoi l'Église, c'est le moyen de réconcilier, de recoller et fracturer. Semaine, on a vécu plein d'aventures, hein. On a aussi mangé chez des amis qui accueillaient, alors là on a mangé avec un couple, une famille, trois enfants. Ils venaient, ils terminaient de faire en pendant un an le tour du monde en vélo. Ils ont fait 12 000 km. On a discuté avec eux tout ça. Et sa conclusion, c'était de dire, mais l'être humain est bon. On voit qu'en frappant jusqu'en Mongolie, aux portes, en Russie, partout, il y a des gens qui vous accueillent. Et l'être humain est bon. C'est vrai que chez les Mongols, ils ne sont pas plus monstrueux que chez les Français. Hein? C'est vrai qu'il y a des gens aussi sympathiques partout dans le monde qu'ici. Je ne veux pas dire que l'être humain est bon. Et c'est pas de cette manière-là, hein, de partir du principe que l'être humain est bon, qu'on arrive à réunifier les êtres humains. C'est tout le contraire. L'évangile prend le pied contraire. En disant, non, que chacun se reconnaisse pécheur. Et terriblement pécheur. Et à partir de là, on va construire. Alors, terminons, hein. Et pourquoi l'Église est un beau lieu? Parce que c'est un beau chantier. L'Église, c'est ce lieu où on peut mettre en pratique l'amour qui nous unit. Nous nous retrouvons ensemble pour vivre des cultes. Les uns comme les autres, comme on est. Puis pour faire des projets ensemble. Nous sommes une famille qui est appelée à prendre soin les uns des autres. Et pas une famille qui est appelée à s'ignorer. Vous comprenez ça? L'Église, c'est pas on vient, on part, on s'ignore. On est appelé à ne pas s'ignorer, à s'intéresser les uns aux autres. Alors les gens plus civilisés, les plus rustres, les fonctionnaires et les professions libérales, les jeunes, les vieux, les tranquilles, les autres, les beaux, les moins beaux, l'Église réunit tout. Elle est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous allez me dire, est-ce que par contre l'Église, c'est vraiment le moyen de réunifier l'humanité fracturée? Est-ce que ça ne concerne pas que l'intérieur de l'Église? C'est-à-dire que je suis chrétien, puis les autres à l'extérieur, on les met à l'écart. Non? Non, parce que l'attitude que Dieu ordonne aux chrétiens, c'est par exemple que sa douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Philippiens 4, verset 5. L'attitude que Jésus-Christ demande aux chrétiens, c'est qu'il aime même son ennemi. Qu'il fasse du bien à celui qui, pourtant, le persécute. Matthieu 5, verset 45. C'est de point chercher son propre intérêt, mais de chercher l'intérêt des autres. C'est d'agir envers ceux extérieurs à l'Église, avec la même attitude qu'à l'intérieur de l'Église, cette attitude qui s'efforce de passer par-dessus les diverses barrières qui sont entre nous. Alors si dans l'Église, j'apprends, moi qui peut-être suis riche, à fréquenter les plus pauvres, j'apprendrai aussi à le faire à l'extérieur. Si j'apprends, moi qui suis blanc, à manger à la même table que des noirs dans l'église, je vais le faire à l'extérieur. Si j'apprends à avoir de l'estime pour des gens qui ont une culture différente et à ne pas être dans le mépris à l'intérieur de l'église, je vais apprendre à le faire à l'extérieur. Tout ce que j'apprends à faire dans l'église, ça va être pour l'extérieur aussi. Et l'église, c'est ce terrain d'entraînement où le monde peut voir comment Jésus-Christ transforme des vies, transforme des cœurs et comment Jésus-Christ réunit des hommes irréconciliables. Alors, attention, l'Église est le meilleur endroit au monde où l'on peut vivre la réunification. Mais ça ne signifie pas qu'on le fasse toujours. Dans le temps, il y avait des églises avec que des noirs et puis des églises que des blancs. Parce que comment ça se fait? Ça veut dire qu'à un moment, l'église n'a pas fait ce qu'il fallait. Elle a emmené les barrières qu'il y avait dans le monde, ces barrières pécheresses, elle les a emportées dans l'église. Vous savez, c'est pas nouveau. Prenez les titres aux Corinthiens, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11, c'était pendant les agapes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Paul est obligé de corriger? En 1 Corinthiens au chapitre 11 et au verset 20, ils avaient l'habitude de célébrer la Sainte Cène en même temps que de faire un repas en commun. Seulement, Paul dit au verset 20, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, du genre ne partage pas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient emporté dans l'église les barrières sociales. Il y avait les pauvres, il y avait les riches. Vous êtes les riches, ils en avaient marre quand il a bouffé aux pauvres. Hein? Je sais qu'il venait au repas en commun, je lui disais, bon, on est 300, je vais quand même pas apporter du caviar, de toute façon ça m'aurait fait plaisir. On va faire une petite table de riches, avec des trucs un peu coûteux. Hein? Puis les autres là-bas, ben, ils sont dans leur groupe, ils sont bien, ils sont entre eux. Ils sont entre eux. Ils disent ce qui s'est passé. Et Paul il dit, oh, faut arrêter, hein. L'église, c'est le jeu de la réunification. Et ce n'est pas le seul exemple, hein. Alors, nous avons une responsabilité, et nous revenons donc à Éphésiens 4. Parce que l'Église reproduit, elle emmène quelque part. Ces murs de séparation, elle n'a pas toujours la sainteté qu'il faudrait qu'elle ait. Comme je le disais, l'Église, c'est un lieu d'apprentissage. Nous avons tout pour apprendre à vivre réunis, même les gens qui nous agacent à cause de leur caractère. Parce que le fait d'esprit, c'est la patience, la bonté. Ah bien, bien. Ouais. Regardez Éphésiens 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Est-ce qu'on a compris la vocation qui nous est adressée? La vocation qui nous est adressée, c'est de marcher selon ce projet éternel du cœur de Dieu, de réunir en un ce qui est fracturé. Tout ce qui nous oppose, niveau social, niveau intellectuel, beauté, tout. Non. Ça, vous allez apprendre par le Saint-Esprit. Hein. Laissez de côté pour vous aimer ardemment d'un cœur pur. C'est la vocation de l'Église. Pour être un témoin sur la terre que Dieu est capable, en Jésus-Christ, de réparer. De restaurer, de sauver. Amen. Voilà la vocation. Et nous devons représenter ça. Alors il dit, je vous exhorte, donc moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour. Ouf. Ça nous fait pas rire, ça. Vous supportant avec patience les uns les autres avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, et là, il revient aux bases. Il y a un seul corps. Un seul corps. C'est ça le mystère. Un seul corps. Il n'y a pas plein de corps qui s'en trouvent pas. Parce que c'est bizarre, hein, quand on a une église de riches, une église de pauvres, une église de gitans, une église de chinois, une église de... Normalement, tout le monde devrait s'entendre. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et Père de tous, et pour tous, et parmi tous, et en tous. Voilà, marchons d'une manière digne de la vocation qui nous est adressée. Alors, de quelle source de division est-ce qu'on s'est encore départi? Regardons-nous les uns les autres. On est tous assis sur l'échelle. Et on peut se regarder l'un après l'autre en disant, si je regarde Bénédicte, je regarde Christine, je regarde Joviane, je regarde Nicole, et je me pose la question, lui là, qu'est-ce qui me freine d'aller vers lui? Et elle là? Pourquoi, c'est quoi qui me tient un peu à distance? Oh, bah, elle... Oh, bah, lui... ouais, mais on a pas la même vie, pas le même niveau social, on n'a pas ceci... Et puis, son caractère. Marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a adressée, c'est nous regarder tous les uns les autres, question, pourquoi est-ce que je ne m'intéresse pas à cette personne? Comme la Bible me l'enseigne. C'est une famille. Pas juste, bon, c'est un mauvais moment à passer, hein, on va passer une petite heure ensemble, et puis ça sera vite fini. Je vais retourner vers mon monde, qui est le mien. Non, 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 non. Et d'ailleurs, les repas en commun sont très intéressants pour ça, les agas. Manger à la même table, passer du temps ensemble. Ouais, mais je m'ennuie avec lui, il est pas intéressant. Ah, il est pas intéressant. Quoi? On n'a rien en commun? Ah. Si. Oh, c'est fatigant. Mais oui, parce que les autres me fatiguent. Oui. Il est bien dit, en supportant, avec patience, avec amour. C'est bien, il est folle, il y a des gens fatigants. On peut tous se regarder et se poser la question déjà, est-ce qu'on se connaît bien? Est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'on va les inverser? Quelles sont les petites barrières qui nous distancent encore les uns des autres? Peut-être c'est le caractère d'un tel, peut-être c'est sa culture, peut-être c'est sa langue. Peut-être cette personne, elle me parle, j'ai tout fait du monde à la comprendre. Parfois un français correct, quoi. Peut-être c'est... Oui, et on commence à réfléchir. Ce qui nous fracture. Ça nous fracture dans le monde. Mais le Seigneur nous a adressé une vocation, c'est que ça ne nous fracture pas dans l'Église. Et si on passe à côté de ça, on passe à côté de la vocation de l'Église. Et ça, c'est vraiment important qu'on comprenne. On est tous là en Église. On dit, ben, c'est bien, nous le Seigneur ensemble, elle doit témoigner l'Église. Non, la première vocation de l'Église, c'est de faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est de faire connaître le mystère caché et ce mystère. C'est la réunification des frères. Illustré en particulier ici par les juifs et les païens. Mais, tant de passages de l'écriture nous disent, par exemple, j'ai oublié en introduction, mais prenez par exemple Galates 3:28. Galates 3:26, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Nous avons ici mentionné les ethnies, les religions, la différence masculin-féminin et la différence de condition, esclave ou libre. Nous avons d'autres passages qui parlent encore et qui rajoutent toutes ces fractures. En Jésus-Christ, nous sommes un seul corps. Alors, on s'est regardé, on peut se regarder. Prenez tout cela. Est-ce que je veux prendre aujourd'hui l'engagement de mieux marcher dans la vocation que Dieu adresse à l'Église? Sinon, je passe à côté de la principale vocation de l'Église, qui nous rappelle la fracture de l'être humain avec Dieu, et cette fracture avec Dieu qui fait des fractures entre les hommes et les femmes. Alors ça, c'est notre terrain. L'Église est notre terrain. Pour apprendre à nous aimer les uns les autres, malgré ce qu'on est, justement, en dépit. Justement, l'Église, c'est ça qui réunit. N'importe qui, il y a n'importe qui rentre dans une Église, c'est incroyable. Hein? Pas les vieilles filles, hein? Justement. Prions. Seigneur, peut-être tu nous montres ce matin que nous passons à côté de la vocation qui nous adresse. Nous gardons des fractures. Nous avons du mal à nous intéresser les uns aux autres, à nous aimer. Parfois, on fait un peu genre, on fait un peu semblant. Vite fait, bien fait. Mais ça ne se trompe pas. Ça ne trompe pas ton regard. Seigneur, tu nous as mis ici tous ensemble d'horizons différents, d'histoires différentes, de capacités différentes. Et le caractère différent. Et c'est souvent loin, justement, Seigneur, d'être quelque chose de naturel, nous sommes profondément attachés les uns aux autres, c'est la belle vie, c'est l'harmonie. C'est pas vrai, c'est pas ça. Justement. Si c'était ça, le fait qu'on soit unis, Seigneur, ça ne viendrait pas de ton œuvre merveilleuse, ça viendrait juste de nos affinités naturelles. Ça viendrait de notre péché. Et c'est bien de faire ces autres choses. En Jésus-Christ. Merci. Merci parce que tous qui faisons partie de ton corps, nous sommes venus par la repentance. En nous rendant compte que le premier problème, c'est moi. Le premier qui met des barrières, qui écarte les autres, c'est moi. Et merci parce que tu nous as donné ton Saint-Esprit. La même puissance en chacun de nous pour former un seul corps. Son Saint-Esprit qui nous pousse au progrès, qui nous pousse à la repentance, qui nous pousse à l'amour, et qui met son fruit en nous. Seigneur, nous avons tout pour vivre la vocation que tu adresses à l'Église. Et nous devons te donner une réponse ce matin. Est-ce que, Seigneur, je veux avancer bien plus loin dans cette vocation? De me rapprocher de mes frères et sœurs, d'être vraiment un seul corps, de surmonter les obstacles, pour que tu nous réunisses, pour que tu nous unisses les uns aux autres dans un seul esprit. Et de telle manière, Seigneur, nous serons en bénédiction au monde, et nous serons un témoignage puissant, qui sera écouté ou pas écouté, mais ce témoignage sera là. Nous ne voulons pas, Seigneur, que tu nous dises, lorsque nous arriverons près de toi, nous ne voulons pas que tu nous dises qu'on est passé à côté de la vocation que tu nous as adressée. Alors travaille nos cœurs. Pour que nous puissions le prendre au sérieux, en nous rendant compte au travers de ce texte combien cette unité, cette réunion des fractures, n'est pas un point annexe de l'Église, mais on est le point central. Merci parce que toi, tu nous as accueillis. Merci parce que alors que nous étions indignes, dignes d'être haïs, nous a aimés, accueillis. Tu as dit notre valeur pour toi. Merci pour cela, que nous puissions le faire à notre tour, les uns envers les autres. Au nom de Jésus. Amen. Thank you.